Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur l'importance des livres et de la culture avec le président et fondateur de l'ONG Bibliothèque sans frontières. Historien de formation et professeur à l'université de Yale, Patrick Veil entend ainsi agir sur le plan de l'éducation, de la transformation sociale, mais aussi de l'urgence. Mais il explique tout d'abord pourquoi il a décidé de créer une ONG consacrée aux bibliothèques.
Parce qu'il n'y a pas de plus grande inégalité que l'impossibilité d'accéder à la lecture, à l'information à travers les nouveaux moyens de technologie comme l'Internet. Et cette inégalité s'accroît dans le monde. Il y a des régions du monde où on n'a pas accès à l'Internet, où on n'a pas accès aux livres. Il y a des populations qui n'ont, je pense aux réfugiés, qui vivent plus de 20 ans dans des camps gérés par l'ONU, par le HCR, et qu'ils sont, s'ils sont bien nourris, s'ils reçoivent des soins médicaux, s'ils sont logés, n'ont pas accès à l'Internet, à la possibilité de créer, de lire, de regarder des films, bref, de faire fonctionner leur intellect, leur cerveau, leur émotion à travers la création. Et puis, il peut y avoir aussi dans les grandes villes et dans les zones rurales de nos pays développés des populations qui n'ont pas accès à ces moyens fondamentaux d'existence que sont la possibilité de lire, d'écrire et d'être informé et de communiquer.
Donc vous intervenez dans certaines situations d'urgence, comme vous venez de l'évoquer. Je crois que vous avez des programmes notamment en Syrie, dans la région des Grands Lacs et aussi en Colombie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces programmes, de leurs différences et aussi peut-être aussi de leurs points communs?
Alors nous avons créé, grâce à la créativité de Philippe Stark et à son soutien magnifique, nous avons créé un centre culturel portable que l'on peut déplacer partout dans le monde, que l'on peut transporter facilement sur une palette par avion, par bateau, par voiture, et qui peut opérer sur tous les espaces, dans une forêt, au bord de l'eau, et qui peut en 20 minutes se déployer sur 100 mètres carrés et servir 5 à 10 000 personnes, et en 10 minutes se refermer si des éléments naturels menacent, comme la pluie, le vent, le sable, etc. Et nous avons commencé à expérimenter cette Ideas Box au Burundi pour des réfugiés congolais. Et on ne savait pas au début si ça allait, marcher. Et ça a été immédiatement un impact incroyable, d'abord auprès des enfants qui se sont précipités sur tous les instruments, tous les outils que propose la boîte, aussi bien les e-books, les livres en papier, la possibilité de regarder des films, la possibilité d'apprendre. Et puis les parents, les mères qui les accompagnaient se sont sentis libérés de la tâche de s'occuper de leurs enfants parce que les enfants étaient très occupés par la Ideas Box. Et l'ensemble des adultes aussi qui sont venus, travailler et ou se distraire sur cette Ideas Box et communiquer aussi souvent avec leur famille, avec leurs proches. Et puis nous avons ensuite développé là en urgence l'intention des réfugiés syriens. Nous avons ouvert des Ideas Box en Jordanie, au Liban, et là nous en avons en Grèce, en Allemagne, et c'est le même phénomène. C'est un besoin, une fois que les personnes ont été sauvées au sens que leur vie est assurée, leur survie est assurée, leur survie physique est assurée, il y a un besoin fondamental d'accès à la culture. L'un des responsables du HCR de Jordanie nous disait que dans l'un des camps, il n'avait pas prévu cet espace culturel, et les gens, une fois remis en forme, si l'on peut dire, souvent, parfois certains d'entre eux se mettent à se battre. Eh bien, dans le camp où on avait cet espace culturel, où est installé l'Ideas Box, il a noté le rôle apaisant de la culture. L'espace culturel apporte la paix. Et c'est dans cet esprit, je pense, que le gouvernement colombien, la Bibliothèque nationale de Colombie, nous a commandé 20 Ideas Box pour 20 villages où les FARC vont être désarmés et vont s'intégrer, vont commencer à s'intégrer à, je dirais, une vie normale à travers l'accès à la lecture, à la culture, à l'Internet, etc. Et donc, avec le soutien de la Fondation Gates, nous allons déployer en Colombie 20 Ideas Box.
Je travaille à la bibliothèque, je m'invente du bon temps. J'ai pour amis tous les poètes, Baudelaire et Chateaubriand. Ici, pour moi, quoi qu'on en pense, ils sont vraiment très gentils.
Cette importance de l'accès à la culture pour ces communautés réfugiées, est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment pris en compte par les humanitaires ?
C'est même pas suffisamment pris en compte d'abord par l'ONU, car il n'y a pas d'instruction, dans les recommandations de l'ONU, cette dimension n'existe pas. Bien sûr qu'il faut en priorité sauver les vies quand il y a une crise humanitaire. Il faut des médecins, de quoi manger, de quoi se loger, de quoi se sauver. Mais une fois que la vie est sauve, l'être humain, la particularité d'un être humain, c'est son langage. C'est la différence du langage animal qui se transmet par génération mais qui reste semblable. Le langage humain est en permanence une création et un enrichissement. Et ce qui fait la partie humaine de l'être humain, c'est la possibilité de parler, de communiquer, de créer, d'écrire, de lire, etc. Et donc cette dimension-là, elle devrait être présente dans les objectifs que l'ONU se fixe pour elle-même, mais que l'ONU aussi fixe à l'ensemble des organisations qui travaillent avec elle pour que cette dimension soit prise en compte. Nous avions lancé, avant de créer l'Ideas Box, parce que nous ne voulions pas juste faire un appel, nous avions fait signer un appel qui a été signé par 9 prix Nobel de littérature et de la paix, des dizaines de prix Pulitzer, de membres de l'Académie française, etc., qui s'appelait l'urgence de lire et qui voulait demander à la communauté internationale de se mobiliser pour que cet accès à la culture soit considéré comme un droit fondamental de l'homme.
Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman, j'ai bouffé l'itré. Et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre.
Votre ONG travaille non seulement dans les camps, dans les situations de crise, mais aussi dans des pays plus développés comme la France et les États-Unis, notamment dans des zones défavorisées, qu'elles soient urbaines ou rurales. Quels sont certains des programmes que vous lancez dans ces pays-là ?
Eh bien, vous avez, par exemple, nous avons fait aussi bien, je dirais, à Sarcelles en France que dans le Bronx à New York, des programmes, par exemple, pour l'été. Vous voyez, au moment de l'été, les enfants des familles modestes qui vont à l'école le reste de l'année perdent énormément parce qu'ils souvent ils n'ont pas les cours particuliers, des soutiens qui sont un peu ce que font faire les parents des familles, je dirais, de classe moyenne supérieure qui veulent que leurs enfants continuent à travailler l'été parce on peut perdre beaucoup de ce qu'on a fait pendant l'année à l'école si on ne fait rien l'été. Et donc on a installé, avec le soutien d'une association locale dans le Bronx, cette Ideas Box dans un jardin privé de South Bronx. Et on a eu énormément de jeunes qui sont venus, mais on a dit on va maintenant la déplacer, on va la mettre le long d'un laundromat. Alors le laundromat, vous savez ce qui se passe, vous venez pour faire votre linge, vous attendez longtemps avant que le linge soit lavé, séché, etc. Donc souvent, ce sont des mères qui viennent avec leurs enfants, les enfants s'ennuient, et là, tout d'un coup, la Ideas Box était là, les enfants complètement accaparés par tout ce qu'offre la Ideas Box, et les mères nous disaient, maintenant, j'ai du temps pour moi. Il y en a une qui nous a dit, I have me time. Et aussi, on a rencontré des gens, des adolescents, plus âgés que ces jeunes qui utilisaient la boîte, disons autour de 20 ans, dont on a découvert que leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas de CV. Ils n'avaient jamais eu de CV parce qu'ils avaient pensé, ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir un CV puisqu'ils n'avaient jamais eu de travail salarié. Et donc on a fait avec eux des entretiens souvent qui duraient plus d'une demi-heure, 40-45 minutes. Et à la fin, on a produit avec l'Ideas Box, ils avaient un CV. Et ils étaient fiers de ce CV et c'était l'une des conditions, bien sûr, pour trouver un emploi, de pouvoir produire un CV qui montrait toutes les activités qu'ils avaient eues, qui n'étaient pas rémunérées, mais qui valorisaient leur talent et leur savoir-faire. Donc l'IdeasBox peut avoir le contenu, le IdeasBox s'adapte, et bien sûr du point de vue de la langue, nous en avons maintenant dans 9 langues différentes, et du point de vue du public, et nous travaillons avec des organisations locales pour créer ce contenu adapté à chaque projet. Et à la fin de quelques mois de formation, la propriété d'IdeasBox est transférée à l'organisation locale, parce que nous ne conservons pas la propriété physique des IdeasBox.
Sur la télé qui trône, un jour j'ai vu un livre. Je crois que c'était le Grand Mône, près de la marmite en cuivre. Dans le porte-journaux, en rotin, tu t'en doutes. Il y a nous deux, le Figaro, le catalogue de la redoute. Dit au bout du couloir.
Vous avez aussi un programme d'apprentissage du code. Quel est son objectif ?
Eh bien là, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Nous nous intéressons à l'éducation, l'accès à l'éducation, au savoir des enfants, disons les familles les plus modestes et les plus loin de ces possibilités d'accès. Et bien, nous avons non seulement Codecademy, que nous avons traduit en français, que nous utilisons donc en français partout dans le monde, qui est une plateforme très facile d'apprentissage du code, très ludique et très agréable, et très intelligemment faite. Et puis nous avons fait aussi la traduction en français, l'adaptation de la Khan Academy pour les maths et les sciences. Et nous avons maintenant plus de 2 millions d'usagers sur la Khan Academy, ce qui montre l'immense besoin de pouvoir utiliser en complément de ce que font les professeurs, et souvent d'ailleurs les professeurs eux-mêmes utilisent ces méthodes-là, ces nouvelles technologies pour pouvoir apprendre savoir scientifique. Et si vous voulez, ces méthodes sont des méthodes que nous voulons mettre à disposition du plus grand nombre. Nous avons utilisé, nous avons expérimenté l'impact de la Khan Academy au Cameroun, dans un centre culturel. Nous sommes l'une des rares organisations qui avons produit une évaluation de l'impact de la CAN et qui est très significative sur le niveau de maths après quelques mois de travail d'un groupe test.
Si on se tourne vers l'avenir, quels sont certains des principaux défis que vous voyez, que vous envisagez en termes d'accès à la culture ?
Moi, je pense que le principal défi, c'est cette conscience que l'accès à la culture est un droit fondamental de l'homme doit être maintenant partagé. Ça peut être la source de la plus grande inégalité. Dans une ville comme New York, 20% des New-Yorkais n'ont pas l'Internet. L'Internet coûte cher et donc ils utilisent la bibliothèque publique pour pouvoir se connecter sur Internet. Cet accès à la culture et à l'information et aux nouvelles technologies, ça doit être une des priorités de tous ceux qui veulent assurer l'égalité des chances pour les enfants du monde. Et donc on ne peut plus envisager, et c'est dans la bibliothèque qu'elle soit construite en dur, ou qu'elle soit comme la nôtre, l'IdeasBox portable et facilement transportable, c'est la bibliothèque, c'est centre culturel modulable qui doit être un investissement d'avenir pour assurer cette égalité des chances entre tous les enfants du monde. Et donc c'est ça le combat que nous voulons, au-delà du produit que nous avons créé, c'est faire reconnaître ce droit à la culture, à l'accès à la culture, au savoir, à l'information, qui est notre combat fondamental et qui explique tout ce que nous faisons.
Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Cette chanson.
Et c'est avec Patrick Weil, président de l'ONG Bibliothèque Sans Frontières, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.